לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver une fois encore. Vous êtes sur Canne en français, au micro ce soir, Rachel Haddad. Comme chaque soir depuis le début de la guerre, nous vous retrouvons pour ce flash raccourci sur le 101.3 FM uniquement et puis plus tard, vers 21h25, pour le journal complet sur le 101.3 FM et en live sur Facebook. Mardi 9 avril, 186e jour depuis le commencement de la guerre. Voici le résumé des principaux événements de ces dernières 24 heures. Depuis le 7 octobre, on déplore au moins 1200 victimes civiles et militaires en Israël, avec environ 130 otages retenus dans la bande de Gaza. Le ministère de la Santé, dirigé par le Hamas, signale 33 360 morts et 75 815 blessés dans la bande de Gaza. Il est à noter que ces chiffres ne sont pas vérifiables car sont communiqués par le ministère de la Santé, dirigé par le Hamas. Le ministère turc du commerce a annoncé hier un embargo sur ses exportations de certains produits vers Israël après que Jérusalem ait refusé à Ankara la possibilité de faire entrer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Ainsi, la Turquie va cesser les exportations de 54 catégories de produits vers Israël, dont le ciment, l'aluminium, l'acier et les pesticides chimiques. Ces restrictions seront en vigueur jusqu'à un cessez-le-feu à Gaza, a déclaré le ministre des Affaires étrangères turc. En réponse, son homologue israélien, Israël Katz, a déclaré avoir ordonné de contacter les pays et les organisations aux États-Unis pour qu'ils cessent leurs investissements en Turquie et empêchent l'importation de produits en provenance de Turquie, ainsi que nos amis du Congrès américain pour qu'ils examinent une violation des lois de boycott et imposent des sanctions à la Turquie en conséquence. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé aujourd'hui Israël à autoriser les journalistes étrangers à entrer dans la bande de Gaza, affirmant qu'une guerre de l'information aggravait l'impact de la guerre entre Israël et le Hamas et qu'il fallait mettre fin aux fake news. L'offensive à Rafah semble se rapprocher alors que l'armée israélienne confirme que sa 98e division a été retirée de Khan Younis dans le sud de Gaza pour permettre aux troupes de se préparer à des opérations supplémentaires, notamment une offensive attendue à Rafah. La 98e division a combattu à Khan Younis pendant 4 mois consécutifs et y a atteint ses objectifs selon des responsables militaires. L'armée israélienne affirme qu'elle s'efforcera entre-temps d'augmenter les livraisons d'aide humanitaire dans la bande de Gaza afin d'accroître visiblement sa légitimité à poursuivre la lutte contre le Hamas. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré qu'Israël n'avait pas informé l'administration Biden de la date à laquelle il envisageait de lancer une invasion de la ville de Rafah dans le sud de Gaza, un jour après que le Premier ministre Netanyahou ait lui annoncé qu'Israël en avait décidé. Israël achèterait de plus des tentes pour abriter près de 500 000 personnes avant son offensive à Rafah. Le commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique iranien a déclaré qu'il pourrait fermer le détroit d'Ormuz, une route maritime clé par laquelle passe une grande partie du pétrole mondial. L'Iran a menacé de fermer le détroit en réponse aux tensions avec Israël et les États-Unis. Il a de plus affirmé qu'il finirait par répondre à la frappe aérienne prétendument israélienne sur le consulat iranien dans la capitale syrienne le 1er avril, qui aurait tué 7 officiers des gardiens de la révolution, dont 2 hauts commandants. Il est peu probable que l'Iran attaque directement Israël, mais qu'il encourage plutôt ses divers mandataires à lancer des attaques au nom de Téhéran. C'est ce qu'ont déclaré CNN depuis des sources anonymes du renseignement américain, ainsi que des responsables militaires israéliens. L'Iran tenterait de plus d'inonder la Cisjordanie d'armes et d'entraîner dans les conflits entre Israël et ses mandataires le Hamas, le Hezbollah et les Houthis. C'est ce que rapporte le New York Times après que le Shin Bet ait déclaré le mois dernier qu'il avait déjoué des tentatives de Téhéran de faire passer clandestinement d'importantes cargaisons d'armes en Cisjordanie. Cette opération de contrebande durerait depuis environ 2 ans et les analystes affirment qu'ils ne savent pas combien d'armes ont été transférées pendant cette période. Enfin, les États-Unis n'ont aucune preuve qu'Israël commet un génocide à Gaza alors qu'il mène sa guerre contre le Hamas. C'est ce qu'a déclaré mardi le secrétaire d'État américain à la Défense Lloyd Austin lors d'une audition au Sénat. Il a également refusé de qualifier de génocide les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre, mais les qualifie de crimes de guerre. C'était les principaux titres de cette journée. Nous nous retrouverons donc à 21h20 pour le journal complet. Vous étiez sur Canon Français avec Rachel Haddad.
Buenas noches, soy Jessica Newa. Este es el flash informativo en español de las 9 de la noche. Las fuerzas de defensa de Israel confirman que la división 98 fue retirada de Han Yunis en el sur de Gaza para que las tropas se preparen para operaciones adicionales, incluida la esperada ofensiva en Rafah. Esta división había luchado en Han Yunis durante 4 meses consecutivos y había logrado sus objetivos allí. Las fuerzas de defensa dicen que, mientras tanto, van a trabajar para aumentar las entregas de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, lo que aumenta su legitimidad para continuar luchando contra Hamas. También dijeron que el ejército está preparado para manejar cualquier limitación que pueda enfrentar como parte de un posible acuerdo de rehenes con Hamas. Es decir, las fuerzas de defensa creen que no tendrán ningún problema en reanudar los combates en caso de que haya una tregua prolongada. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que a Hamas se le ha presentado una oferta muy seria de tregua y acuerdo de rehenes que él debería aceptar. Según él, Hamas podría poner fin a todo esto de inmediato y lograr un alto el fuego que beneficiaría al pueblo de Gaza y resolvería el tema de los rehenes. El hecho de que siga sin decir que sí, dijo, es un reflejo de que lo que realmente piensa Hamas sobre el pueblo de Gaza. Dijo, Hamas tiene ahora la oportunidad de aceptar la propuesta de alto el fuego y los rehenes. La pelota está al lado de Hamas. El mundo está observando lo que hace. Dijo, me sorprende que el mundo guarde un silencio casi ensordecedor cuando se trata de Hamas. No estaríamos donde estamos hoy si Hamas no hubiera elegido participar en uno de los actos más horrendos de terrorismo como el 7 de octubre. También Blinken habló sobre la operación en Rafah y dijo que Israel no ha informado a la administración Biden de la fecha en la que planea lanzar esta maniobra. Y esto lo dice un día después de que el primer ministro Netanyahu anunciara que Israel ya tenía una fecha para iniciar la maniobra. Dijo, estamos hablando con ellos sobre formas alternativas y efectivas de resolver los problemas para que, haciéndolo esto de una manera que no ponga en peligro a los inocentes. Dijo también que una delegación de alto nivel de funcionarios israelíes va a visitar Washington la próxima semana para discutir este asunto. Dijo también, estamos comprometidos a garantizar que Hamas no pueda gobernar ni dictar el futuro de Gaza ni de cualquier otra cosa. Pero la forma en que Israel lleve a cabo futuras operaciones en Gaza es muy importante. Manifestantes bloquearon brevemente la calle Rupin, esto es en Jerusalén, frente a la oficina del primer ministro, mientras piden al gobierno que llegue a un acuerdo para devolver a los rehenes de Gaza. El grupo salió de la carretera y volvió a las aceras después de un rato en respuesta a las órdenes de la policía. Mientras tanto, otro grupo más pequeño de contramanifestantes también estuvieron allí cerca y pidieron a los líderes justamente lo contrario, que no se dobleguen ante Hamas. Según el Canal 12, los oficiales militares israelíes estiman que una respuesta iraní al supuesto ataque a una misión de Damasco no llegará hasta después de la festividad musulmana de Eid al-Fitr, que finaliza el 12 de abril. El ejército también cree que un ataque tendrá como objetivo activos militares o estratégicos y no sitios civiles. Según él, Israel se está preparando para la posibilidad de un ataque proveniente de cualquiera de los varios representantes o incluso del mismo Irán, así como la posibilidad de un ataque en múltiples frentes a la vez. Una evaluación del gobierno del Reino Unido ante la continuación de la guerra en Gaza por parte de Israel determinó que Londres puede continuar exportando armas a Israel. Esto, según lo dijo el secretario de Asuntos Exteriores, David Cameron. El gobierno británico se ha enfrentado a crecientes llamados para detener la venta de armas a Israel, incluidos el alcalde de Londres, que dijo esto la semana pasada. Israel sigue siendo un socio de seguridad vital para el Reino Unido, esto señaló Cameron, al mismo tiempo que afirmó que Londres siguen teniendo graves preocupaciones con respecto a la situación humanitaria en Gaza. Por último, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo en una audiencia en el Senado que Israel ha cambiado su forma de operar en respuesta a la conversación del presidente estadounidense Joe Biden con el primer ministro Netanyahu a raíz del asesinato de los trabajadores humanitarios del World Central Kitchen la semana pasada. Dijo, claramente tuvo un efecto, hemos visto cambios en el comportamiento y hemos visto cómo se envía más ayuda humanitaria a Gaza. Sin embargo, aclaró también que todavía hace falta mucho más. Hasta aquí la información. Soy Jessica Newa. Nos encontramos mañana a las 2 de la tarde en nuestro programa, como todos los días. Que tengan una noche tranquila. Shalom desde Jerusalén.
Kartulenu ani radio kan reka hamishim shulnu ani khaliyam bebi mikrofon tan meriam shikashuli gamem shidavit rasrodesat kuakana umzime sporiyevshia samzadichia musolneli samzolo operatsiis kapartoebis sheshatsloblobis irguli autsileblat nebismierma chventan ganma da chven mamsmenelma unda daitsas qvela ოფიციალური მონაცემები, რომელსაც ზურგის სამსახურები დაბეწოსულებს, შემოგთავაზებთ ხოლმე ოფიციალურად. ნაცრეთში ოჯახური კრიმინალი შედგა. Сами დაიღუპა 4 და იჭრა მამაკაცმა ესროლა და ისეთი მძიმე ამბობენ ოჯახური ნაქცევით იყვნენ. ოპოზიციის ლიდერი იარ ლაპიდი ამერიკულ ტურნეს აგრძელებს და ისხდება სალვინს და Blinkens, წყლის გუმბათი ომის პერიოდში შექმნილი მნიშვნელოვანი წარმატება, კრის ყოველიც და ჩვენი განადგურებისთვის ყოველდღიური წარმატება იქცა. ძალის მიერ სირიაში კიდევ ერთი მაღალჩინოსანი იქნა განადგურებული. გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით დღეს აღამოს პოლიტიკური უსაფრთხოების კაბინეტმა 19 საათზე შეიკრიბა, სადაც მოხდება შეთანხმება ნათანიაუ ტამან ბენგურის პირადი საუბრების შემდეგ. შეხვედრაზე ბენგურიმა დააზუსტა თავისი პოზიციები გარიგების პირობებთან დაკავშირებით და მათ შორის მისთვის წითელ ხაზებთან დაკავშირებით. რამდენადაც ისრაელის პარტიის თავმჯდომარე ისრაელ ბეითენუ ავიგდორ ლიბერმანი აკეთებს ვაცაფზე განცხადებას, რომ დაუყოვნებლივ უნდა შეიქმნეს სახელმწიფო გამოძიების კომისია, რომელიც გამოძიებს 7 ოქტომბრის ჩავარდნას. პრემიერ მინისტრი ნათანიაუ და მისი მთავრობის წევრები აგრძელებენ და ცდილობენ თავი დააღწიონ პასუხისმგებლობას საშინელ კატასტროფაზე და იმ კონცეფციაზე რომელიც გამოიწვიეს მათმა უნარობამ. პარალელურად გრძელდება, ჩვენ კარგად ვიცით, რომ დღეს ორი კაბინეტის ხდომა, ჯერომის კაბინეტის ხდომა გაიმართება, შემდეგ გაიმართება გაფართოებული კაბინეტის ხდომა, სადაც ოფიციალურად გადაწყვეტილი იქნება მწერველთა თავისუფლების სამომრავლო პერსპექტივა. ამერიკელებთან მიღწეული ურთიერთგარიგების თანახმად, როგორც ჩანს, შეთანხმების სტრუქტურა პირველ რიგში მოიცავს შეწყვეტს და დამძევლებისგან თავისუფლებას. ასევე 900-მდე უსაფრთხო პატიმარს, რომელთაგან 100 მკვლელია და მხოლოდ ამის შემდეგ გაემგზავრება ძალები დერეფლისკენ, რომელიც ანადგურებს სოლს ამავდროულად. რამდენიმე წყარო მიუთითებს იმაზე, რომ ისრაელი მზადა და ტოლტერებანი, რომლის კვეთის ზოლით, როგორც მძევლების შეთანხმების განხორციელების ნაწილში, ამერიკული გარიგების გეგმა 12 დღის შემდეგ მოიცავს ღაზის სექტორის ჩრდილოეთით ერთ-ერთ მთავარ სატრანსპორტო მარშრუტს, რაშიდის ღერძის გახსნას გარკვეული პერიოდის შემდეგ, ასევე კიდევ ერთი გზა გაიხსნება სალდინის გადასასვლიდან. ამასი წარმომადგენლების თანახმად 42 დღიანი ცეცხლის შეტყვეტის დასრულების შემდეგ მხარეები დაბრუნდებიან შეთანხმების მეორე ფაზაზე, რომელიც ხამას არ გააჩნია, რომელიც მოიცავს დაჩენილი ისრაელის გატაცებულთა ძალების მნიშვნელოვანი რაოდენობის დაცვას და პატიმრების განთავისუფლებას. შუამავლების წინადადება ეგვიპტედან ვრცელდება, რომ მოხდება ისრაელის ჩრდილოეთში, ისრაელის მიერ ჩრდილოეთ ღაზის სექტორში პალესტინელთა დაბრუნება. დღესაღამოს გარემოცვაში ესევე გამოცხადება გატაცებულთა განთავისუფლების პროცესები. საკმაოდ რთული და მძიმე მოტივებია, თუმცა თურქეთის მიერ ისრაელის პროდუქციის ექსპორტის შეშეების ცალმხრივი ნაბიჯების შემდეგ საგარეო საქმეთა მინისტრმა კაცმა განაცხადა, რომ თურქი ერდოღანი ამ პროცესებს განახორციელებს, ჩვენ კიდევ სხვა პროდუქტებს დავამატებთ და საერთოდ გავწყვიტავ თურქეთთან კავშირს. რა იქნება და როგორ იქნება, როგორ დამთავრდება ეს ყველაფერი, როგორ იქნება პროცესი, ალბათ ხვალ გადაცემაში. მე კი ახლა დაგემშვიდობებით, შალომ მიერუშალაიმ.
سلام رادیو شما منگونی مخترم در یروشلایم خوزر ساکین نویو شونزده مایان به دیختتون پنج دقیقه معلومات خو میرسانیم به کیان به مناسبتی که همچون ایدی پیسخ به مایان نزدگان دایستاده است و همچون از سببه که مایان علکه در روزی 186 روزی جنگی شمشرهای تیموری نشستیم گرچنده که قوه بختری اسرائیل عسکرهای خود را از سکتر از برده باشد هم جنگ حالا در سکتری از دوام داده ایستاده است. همچون یک چند تروریست ها سوی گذشته در خانیونس نوبود کرده شدن با روی سمرات های حربی اسرائیل. سخنان خانیونس به خونشان گشتان دنی حسن، اما اسرائیل میخواید، همچون خلق اسرائیل میخواید که حالا سخنان خانیونس بازگشت نگردن. این اخصه اونانی که در سرخط حیات دارن، سرخط با سکتری از که اونا ترز دارن که حالتی 7 اکتبر بعد نیم سال تکرار شدنش در آینده هم ممکن. از این سبب همچون میری شهر ازدیروت امروز پگاهی در برامدی خود گفت که با من سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو وعده داده بود که تا که تشکیلاتی حماس کم حرکت کردن شود ما یان جنگ رو بس نمی کنیم و امکانیت نمی دیم که سخنانی سکتر از با خانشان بازگشت کردن که ممکن که بین آنها هم تروریست ها یعنی جنگ ورانی تشکیلاتی حماس هستند. ما هم همچنون گفته می تانیم که حالا 133 نفر به گردی گرفته شدگیان حالا در دستی تشکیلات حماس هستند و اسرائیل حرکت های بسیار کرده ایستاده است برای آنها را به خونشان آوردن. علاقه چندین بار دیده باندیم که قطر، مصر، فرانسیه و دیگر دولت ها یاردم خود را به بازگشت شدنی به گردی گرفته شدگیان رساندنی بودن، اما به یکان پیش قدمی هم. در همین هفته وکیلان اسرائیل به مصر پرواز کرده، در اونجا با وکیلان تشکیلات حماس هم صحبت شدن و گفتم که پیش قدمی ها روی دادنش ممکن برای بگروی گرفتشگان را عذر کردن. اما فراموش نکنیم که تشکیلات حماس معلوم کرده بود که مویان یعنی تشکیلات حماس میخواهد همه به تورمان شخصتگان باید آزاد کرده شوند، عربایی که در تورمان شخصتگان، و بعد از آن 133 بگروی گرفتشگان را تشکیلات حماس آزاد میکنم گفته معلوم کرده بود. چندی موردی رو برمدیم که اوهیلایی به گروه گرفته شدگان به نزی پرلمنت اسرائیل آن به زیدی حکومروانی خوزیره دیمانسراتی ها گذراندن آن می باشد از سبب که آنها باوری دارن که حکومروانی خوزیره بسیار بسیار قدم هایی بهتر کردنی گفتوشین ها بین تشکلات خمس و سکتر از گذران دستاد است. تشکلات خمس گفت که او میخواید یک چند اسیران از مای اسرائیل براردن و بگروی گرفت شدگان یعنی اوهیلای بگروی گرفت شدگان به این راضی هستن اما حکومروانی خوزیره راضی نیست. از سبب که اسکرهای قوی به خطر اسرائیل از خانیون براورده شدن یک چند وزیرها به سروزیر بنیامین نتانیاهو گفتن که این می باشد خطا و اگر رفتار خود را بنیامین نتانیاهو دیگر نکند البته گفتن ممکن که در آینده به وظیفه سروزیر با داده نمی شد. گفتن یک چند سروزیرهای بخشتن چند وزیرهای اسرائیل امروز در برآمدی خود گفتن. نارامی هم چون در شمالی مملکتمون حالا دوام داده ایستاده است در دوام همین روز چندین بار راکت پرانی از شمال به سوی شهرهای اسرائیل که در شمال هستند پرانده شد و حالا 160 هزار نفر زیاد ساکنان شمال مملکتمون از سرحد دور شده در تل‌آویو حیات خود را دوام داده ایستادند. چهار که گفته بروندیم در نزدیک ها ایدی پسخ را پیشواز نگریم و آنها از خانه دور شده آن را در مهمان خانه ها و دیگر جا گذراندنی هستن. و در باره معلوماتی آب و هوا پگاه نظر به همین روز حرارت خنک شده میگرد شده میگذرد و همچون بارون باری ها گوهگاه روی دادنش ممکن. خدا خد پگاه ستید وزنیم به شما با یک چند معلومات هم میرسانیم. شلام نیرو شنعیم.
Il est 21h. Vous êtes sur CAN, la radio publique israélienne. Voici votre programme en français. Bonne écoute à tous nos auditeurs.
Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver au micro ce soir, Rachel Haddad. Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 avril. C'est le 186e jour depuis le commencement de la guerre. Depuis le 7 octobre, on déplore au moins 1200 victimes civiles et militaires avec environ 130 otages retenus dans la bande de Gaza. Le ministère de la Santé, dirigé par le Hamas, signale 33 360 morts et 75 815 blessés dans la bande de Gaza. Il est à signaler que puisque ces chiffres sont communiqués par le Hamas, il est impossible de les vérifier. L'invité de notre magazine ce soir à 21h30 sera Elior Graham, coach sportif qui nous parlera des maux de dos et des différentes manières de les éviter et de s'en occuper. Mais avant cela, voici le résumé des principaux événements de ces dernières 24 heures. Le ministère turc du commerce a annoncé hier un embargo sur ses exportations de certains produits vers Israël, après que Jérusalem ait refusé à Ankara la possibilité de faire entrer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Ainsi, la Turquie va cesser les exportations de 54 catégories de produits vers Israël, dont le ciment, l'aluminium, l'acier et les pesticides chimiques. Ces restrictions seront en vigueur jusqu'à un cessez-le-feu à Gaza. En réponse, le ministre des Affaires étrangères Israël Katz a déclaré qu'Erdogan sacrifiait une fois de plus les intérêts économiques du peuple turc pour son soutien aux meurtriers du Hamas à Gaza qui ont violé, assassiné et profané les corps de femmes, de filles, d'adultes et brûlé vifs des enfants. Israël ne cédera pas à la violence et au chantage et ne tolérera pas la violation unilatérale des accords commerciaux. Israël prendra des mesures parallèles contre la Turquie qui nuiront à l'économie turque. Le ministre des Affaires étrangères Israël Katz a ajouté qu'il avait pris contact avec des organisations américaines pour qu'ils cessent leurs investissements en Turquie et ont demandé aux amis israéliens du Congrès américain qu'ils examinent une violation des lois de boycott et imposent des sanctions à la Turquie en conséquence. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé Israël à autoriser les journalistes étrangers à entrer dans la bande de Gaza. Guterres a affirmé qu'une guerre de l'information aggravait l'impact de la guerre en Israël et le Hamas, que l'absence de professionnels de l'information permettait la prolifération et le pullulement de fake news. L'offensive à Rafah semble se rapprocher. L'armée israélienne a confirmé aujourd'hui que sa 98e division avait été retirée de Khan Younis dans le nord de la bande de Gaza afin de permettre aux troupes de se préparer à des opérations supplémentaires, notamment à une offensive attendue à Rafah. La 98e division avait combattu à Khan Younis pendant 4 mois consécutifs. Elle y a atteint apparemment ses objectifs, selon des responsables militaires israéliens. L'armée israélienne affirme qu'elle s'efforcera entre-temps d'augmenter les livraisons d'aide humanitaire dans la bande de Gaza afin d'accroître visiblement sa légitimité et de poursuivre la lutte contre le Hamas. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, lui, a déclaré qu'Israël n'avait pas informer l'administration Biden de la date à laquelle il envisageait de lancer une invasion de la ville de Rafah, et ce, un jour après que le Premier ministre Netanyahu, lui, ait annoncé qu'Israël avait décidé de cette invasion. Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, a commenté en déclarant que les puissances mondiales devaient prévoir la possibilité que les pourparlers en cours sur les otages ne portent pas leurs fruits et qu'Israël puisse poursuivre ses opérations dans la ville de Rafah. Nous devons être conscients que si les négociations ne mènent nulle part, nous devons réfléchir à un plan B. Que peuvent faire les organisations humanitaires et autres pour garantir qu'en cas de conflit à Rafah, les gens puissent se mettre en sécurité ? Ils peuvent obtenir de la nourriture, de l'eau et des médicaments. De plus, il semblerait qu'Israël ait acheté des tentes pour abriter près de 500 000 personnes avant son offensive à Rafah. L'Iran, le commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique iranien, a déclaré qu'il pourrait fermer le détroit d'Ormuz. C'est une route maritime clé par laquelle passe une énorme partie du pétrole mondial. Si l'ennemi vient à nous perturber, nous reverrons notre politique et fermerons le détroit, a déclaré le commandant de la marine des gardiens de la révolution, Ali Reza Tangziri, au journal libéré banné pro-Hezbollah Al-Meyadin. L'Iran a menacé de fermer le détroit en réponse aux tensions avec Israël et les États-Unis. Il affirme que si des navires nucléaires américains entrent dans les eaux iraniennes, le détroit d'Ormuz deviendra inutilisable et ce pendant plusieurs années. Le commandant a de plus affirmé que la présence israélienne aux Émirats arabes unis est considérée comme une menace par Téhéran. Nous savons que les sionistes n'ont pas été amenés aux Émirats arabes unis à des fins économiques, mais plutôt à des fins sécuritaires et militaires. C'est une menace pour nous et cela ne devrait pas se produire, a-t-il déclaré. Il a de plus affirmé que l'Iran finirait bien par répondre à la frappe aérienne, prétendument israélienne, sur le consulat iranien dans la capitale syrienne le 1er avril, qui a tué 7 officiers des gardiens de la révolution, dont 2 hauts responsables. Il est peu probable pourtant que l'Iran attaque directement Israël, mais qu'il encourage plutôt ses divers mandataires à lancer des attaques au nom de Téhéran. C'est ce qu'ont déclaré à CNN des sources anonymes du renseignement américain. Si l'Iran attaque Israël directement en réponse à l'attaque de la semaine dernière à Damas, Israël par contre ripostera en frappant des cibles en Iran, ce qu'a rapporté le journal Elaf News basé à Londres. Mais les responsables militaires israéliens estiment que cette réponse iranienne n'interviendrait qu'après la fête musulmane de l'Eid el-Fitr qui se termine le 12 avril. Et l'armée a toutes les raisons de penser que cette attaque ciblerait seulement des ressources militaires ou stratégiques et non des sites civils. L'Iran encore tenterait d'inonder la Cisjordanie d'armes et d'entraîner dans les conflits entre Israël et ses mandataires, le Hamas, le Hezbollah et les Houthis. C'est ce qu'a rapporté le New York Times après que le Shin Bet ait déclaré le mois dernier qu'il avait déjoué des tentatives de la part de Téhéran de faire passer clandestinement des cargaisons importantes d'armes en Cisjordanie. Selon le rapport, l'Iran exploiterait des routes de contrebande à travers l'Irak, la Syrie, le Liban, la Jordanie et même Israël, avec d'importantes cargaisons d'armes transportées d'un pays à l'autre par l'intermédiaire d'agents terroristes, de soldats ou de bandes criminelles, avant d'arriver en Cisjordanie avec l'aide de passeurs bédouins qui les transporteraient vers le territoire palestinien depuis la frontière jordanienne. Citant des responsables de la sécurité et du renseignement iranien, américain et israélien, le New York Times a affirmé que la majorité des armes de contrebande sont des armes de poing et des fusils d'assaut, mais que des missiles anti-chars et des grenades propulsées par fusée ont également été transférées assez fréquemment. L'opération contrebande durerait depuis environ 2 ans et les analystes affirment qu'ils ne savent pas combien d'armes ont été transférées pendant cette période. Les États-Unis n'ont aucune preuve qu'Israël commettrait un génocide à Gaza, alors qu'il mène sa guerre contre le Hamas. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire américain de la Défense aujourd'hui, Lloyd Austin, lors d'une audition au Sénat. Il a de plus refusé de qualifier de génocide les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre, mais les a qualifiées de crimes de guerre. Le secrétaire d'État américain, Lloyd Austin, a de plus déclaré lors de cette audition au Sénat qu'Israël avait modifié sa façon de fonctionner en réponse à la conversation du président américain Joe Biden avec le premier ministre Netanyahou à la suite de l'assassinat des travailleurs humanitaires de la World Central Kitchen la semaine dernière. Il a dit, je cite, « Cela a clairement eu un effet. Nous avons constaté des changements de comportement et nous avons vu davantage d'aide humanitaire arriver à Gaza. » Évidemment, il en faut encore plus. Il ajoutait qu'il pensait que la conversation entre Biden et Netanyahou avait eu un effet positif. La frappe, l'attaque d'Israël sur les travailleurs de la World Central Kitchen a conduit à un changement de ton entre la part du président américain Joe Biden et sur la manière dont Israël devait protéger la vie civile à Gaza et a poussé des dizaines de députés démocrates, dont l'ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, à appeler Biden à mettre un terme au transfert d'armes en Israël. Austin a de plus mis en garde Israël. Si davantage d'aide humanitaire ne saurait être envoyée à Gaza, une famine généralisée risquerait de se déclarer dans le territoire, ce qui entraînerait un accroissement de la violence et sur le long terme, une guerre durable. Les propos d'Austin ont été temporairement interrompus lors de la session du Sénat par des manifestants pro-palestiniens brandissant des drapeaux et scandant des messages tels qu'arrêter le génocide en levant leurs mains peintes de rouge. Le Wall Street Journal a rapporté qu'une proposition américaine de trêve et d'accord sur les otages à Gaza permettrait à 150 000 Palestiniens de retourner dans le nord de la bande. Israël a cherché à limiter le nombre d'hommes autorisés à retourner dans le nord, craignant que des membres du Hamas puissent s'infiltrer et y rétablir leur contrôle, annihilant ainsi les acquis militaires israéliens qui cherchaient à évincer le groupe terroriste de sa base de pouvoir. Aucune source n'est citée dans le rapport du Wall Street Journal qui note qu'une précédente offre israélienne prévoyait l'autorisation de seulement 60 000 personnes à retourner dans le nord. On estime aujourd'hui que plus d'un million de Gazaouis ont fui le nord de la bande de Gaza au cours des premiers mois de combat qui s'étaient concentrés sur la ville de Gaza et ses environs. Beaucoup d'entre eux se trouvent aujourd'hui dans la ville de Rafah, à peu près 1,5 million, à l'extrême sud du pays, qu'Israël affirme devoir conquérir pour atteindre son objectif d'éliminer le Hamas. Le Hamas a exigé que les Gazaouis bénéficient d'un accès sans entrave au nord de la bande de Gaza, dans le cadre d'accords avec les otages, ainsi de libération des otages, ainsi que la fin des combats et le retrait total des troupes israéliennes de l'enclave. Des rapports antérieurs ont souligné que la question du retour vers le nord est l'un des principaux points de friction des pourparlers en cours au Caire. Le rapport du journal, du Wall Street Journal, cite Daniel Levy, un ancien négociateur israélien, disant que la dernière proposition qui avait été avancée par le chef de la CIA, William Burns, ce week-end, ne précisait pas si la trêve serait temporaire, comme Israël l'insiste, ou si elle a pour but de mettre fin à la guerre, ce qui est une exigence du Hamas. Un habitant de Itzar, âgé de 14 ans, a reçu une ordonnance administrative le plaçant en résidence surveillée et lui interdisant de quitter sa colonie de Cisjordanie. Selon l'organisation d'aide juridique Onenu, qui représente souvent des colons extrémistes et d'autres juifs israéliens accusés de crimes à motivation nationaliste, l'ordre a été émis par le chef du commandement central de l'armée israélienne, le général de division Yehuda Fox. Et cet ordre est valable de 3 mois. Onenu qualifie l'ordre administratif de fou et dénonce Fox, qui est devenu une figure détestée par une grande partie du mouvement colon et de l'extrême droite israélienne, de persécuteur de la communauté des colons. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui est partisan de la ligne dure en faveur des implantations, a critiqué Fox et a attaqué le ministre de la Défense Galante pour sa décision insensée. Ce n'est pas à cela que ressemble un ministre de la Défense qui protège les colons, mais c'est à quoi ressemble un ministre de la Défense qui les harcèle, a-t-il dit. Plusieurs ordres de ce type ont été émis par les services de sécurité depuis le début de la guerre avec le Hamas, dans un contexte de forte augmentation de la violence des colons contre les Palestiniens en Cisjordanie, après l'attaque du Hamas du 7 octobre. Aujourd'hui en Israël, des dizaines de manifestants, dont des proches de prisonniers détenus à Gaza, se sont rassemblés sur la place Yigal Shiloh à Jérusalem, dans l'espoir de faire pression sur le cabinet de sécurité israélien pour qu'il parvienne à un accord permettant de libérer les otages. Les familles des otages appellent les membres du cabinet à les regarder dans les yeux avant de prendre une décision, selon un communiqué du Forum des otages et des familles disparues. Le gouvernement est responsable de la vie des otages, ont-ils scandé. Le temps presse, ramenez tout le monde maintenant. Le rassemblement a eu lieu alors que le cabinet de sécurité s'apprêtait à tenir une réunion pour discuter des pourparlers sur les otages au Caire. Les proches de plusieurs otages américains détenus à Gaza ont de plus rencontré ce mardi, aujourd'hui, la vice-présidente américaine Kamala Harris à Washington. Ils discuteraient donc d'une libération des otages. Les familles des otages ont rencontré aussi ce lundi le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan. La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré que Canberra envisagerait la reconnaissance d'un État palestinien comme un moyen de créer une dynamique vers une solution à deux États. Une solution à deux États est le seul espoir de briser le cycle sans fin de la violence, a-t-elle dit à l'Université nationale australienne, rejetant ceux qui prétendent que la reconnaissance récompenserait un ennemi, à savoir le Hamas. Il n'y a pas de sécurité à long terme pour Israël, à moins qu'il ne soit reconnu par les pays de sa région. Elle faisait référence à une proposition saoudienne qui verrait une grande partie du monde arabe normaliser ses relations si un État palestinien était créé. Wong exclut toutefois un rôle du Hamas dans cet État palestinien. Le Hamas n'a aucun rôle dans le futur État palestinien. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a de plus déclaré qu'il se prononcerait ce mois-ci sur la candidature des Palestiniens à l'adhésion à part entière de l'ONU, une campagne à long terme ayant peu de chances de survivre à l'opposition américaine. L'ambassadrice maltaise Vanessa Frazier, qui assure la présidence tournante du Conseil, a indiqué que le Conseil avait décidé que cette délibération devait avoir lieu au mois d'avril. Toute demande d'adhésion à l'ONU doit d'abord passer évidemment par le Conseil de sécurité où les États-Unis disposent d'un veto et ensuite seulement il pourrait être approuvé par l'Assemblée générale de l'ONU. Les Palestiniens ont le statut d'observateur auprès de l'Organisation mondiale depuis 2012 et ils font pression depuis des années pour obtenir une adhésion à part entière, ce qui équivaudrait évidemment à la reconnaissance d'un État palestinien. Washington maintient que l'ONU n'est pas le lieu idéal pour reconnaître un État palestinien. Il souligne que cela devrait être le résultat d'un accord entre Israël et les Palestiniens. Le ministre israélien des Affaires étrangères s'en est pris aujourd'hui à la Norvège, affirmant que ce pays européen est le seul parmi les pays partageant les mêmes visions du monde démocratique qu'Israël à continuer à soutenir le groupe terroriste du Hamas tout en refusant de condamner les violences sexuelles contre les victimes israéliennes. Il est choquant que les meurtres, viols et autres atrocités commises par les terroristes du Hamas n'aient en rien changé la position du gouvernement norvégien à l'écart du Hamas. C'est ce qu'il a déclaré sur la plateforme X. Ces reproches font suite à une déclaration du ministre norvégien des Affaires étrangères ce dimanche qui visait largement Israël sur sa gestion de la guerre à Gaza, alléguant un manquement total au respect des règles du droit humanitaire. D'autres opposants à la politique israélienne se trouvent au Maroc et ils manifestent en grand nombre car un militant qui a critiqué la décision du Maroc de normaliser ses relations avec Israël a été condamné à 5 ans de prison pour ses propos. Abdulrahman Zankad de Mohamedia a été arrêté en mars après avoir publié sur Facebook des articles sur la guerre entre Israël et le Hamas et avoir critiqué la décision du Maroc en 2020 d'établir des relations diplomatiques avec Israël. Un tribunal l'a déclaré ce lundi coupable d'insulte à une institution constitutionnelle et d'incitation. Il a également été condamné à une amende de 50 000 dirhams marocains, ce qui équivaut à peu près à 5 000 dollars. Le groupe de défense des libertés civiles, qui organise la défense juridique des manifestants, qualifie les accusations de sans fondement et affirme que la procédure a violé le droit de Zankad à un procès équitable. Sa condamnation, je cite, ne sert qu'à consolider la certitude que nous sommes dans un état criblé d'autoritarisme et de tyrannie. C'est ce qu'a affirmé le groupe. Zankad est membre d'Al-Adel Wal Insan, une association islamiste interdite mais tolérée au Maroc, qui est à l'origine des manifestations contre Israël en faveur notamment du Hamas. Les manifestants ont critiqué les alliés d'Israël, dont les États-Unis, et ont scandé des demandes au gouvernement l'exhortant à annuler cette normalisation avec Israël. Un homme qui avait été accusé d'avoir percuté avec sa voiture des manifestants anti-gouvernementaux bloquant une route ce samedi soir a été condamné à rester derrière les barreaux pendant plusieurs jours supplémentaires. Le juge rejetant sa défense selon laquelle son véhicule avait mal fonctionné. Cette décision s'inscrit dans le contexte de nombreuses attaques contre des manifestants par des automobilistes. Le Premier ministre Netanyahou a déclaré aux nouvelles recrues enrôlées dans le corps de défense des frontières de l'armée israélienne qu'elles sont enrôlées pour protéger l'existence d'Israël et d'assurer la sécurité des générations d'Israéliens à venir. Lors d'une visite à la base militaire de Tel HaShomer, dans le centre d'Israël, Netanyahou a déclaré à ses futurs soldats de combat et de surveillance nouvellement enrôlés qu'ils rejoignaient une longue tradition de personnes qui avaient défendu Israël et ses ennemis avant eux et en devant parfois payer un prix très élevé. Il faisait référence aux 15 soldats de surveillance qui, le 7 octobre, ont été assassinés sur la base militaire de Nahalos par les terroristes du Hamas. Et plusieurs autres de ces soldats ont été pris en otage et se trouvent toujours dans les geôles du Hamas à ce jour. Les États-Unis ont fourni de l'aide à l'Ukraine et pas n'importe quelle aide, des armes et des munitions saisies alors qu'elles étaient transférées des forces iraniennes aux rebelles houthis soutenus par Téhéran au Yémen. Le transfert de la semaine dernière est intervenu alors que l'Ukraine souffre d'importantes pénuries de munitions et que le législateur républicain américain bloque toute nouvelle aide. Mais cette aide ne répond pas aux besoins de Kiev en articles clés tels que de l'artillerie lourde et des munitions de défense aérienne. Le président ukrainien Zelensky appelle la communauté internationale à fournir plus d'armes sans lesquelles l'Ukraine ne pourra plus tenir longtemps face à l'invasion russe. L'ambassade du Qatar à Washington a répliqué au président du comité de surveillance de la Chambre des représentants, James Comer, qui avait publié plus tôt dans la journée une déclaration affirmant que Doha avait versé au groupe terroriste du Hamas 30 millions de dollars par mois depuis 2018. Le Qatar ne paie pas le Hamas, c'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur dans un tweet sur le réseau social X. En pleine coordination avec le mouvement israélien, le Qatar fournit une aide humanitaire à Gaza depuis 2018, mais ne paie pas le Hamas. Il a souligné deux formes d'assistance. D'une part, Ils achètent carburant auprès d'Israël pour alimenter une centrale électrique de Gaza, et ce afin de produire de l'électricité à Gaza sous la supervision du Bureau des services d'appui au projet des Nations Unies. Et la deuxième forme d'aide concernerait des paiements administrés depuis 2021 par le Programme Alimentaire Mondial, qui fournirait 100 millions de dollars par mois aux familles pauvres de Gaza sous forme d'allocations supervisées par Israël. L'aide du Qatar a été recherchée et appréciée par Israël au cours de la décennie qui a précédé l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre. C'est ce qu'ont montré des documents obtenus par le New York Times. Les États-Unis ont également soutenu les contributions humanitaires du Qatar. En 2018, l'envoyé spécial du président Trump au Moyen-Orient, Jason Greenblatt, avait approuvé l'accord Israël-Qatar visant à acheminer l'aide vers Gaza. C'était les principaux titres pour cette journée. Tout de suite, nous allons passer à notre magazine avec l'invité de cette soirée, Elior Graham, qui est un influenceur sur Instagram et un coach sportif qui vient nous parler des maux de dos. Comment y remédier ? Tout de suite, le magazine.
Littérature, société, culture, spectacle, le magazine de Cannes en français.
L'invité de notre édition ce soir est Elior Graham. Il est coach sportif et influenceur sur Instagram. Il tient un compte dans lequel il nous donne des conseils d'alimentation et de sport. Elior Graham va venir ce soir nous parler de la santé de notre dos. Alors, je suppose que pour vous c'est la même chose, mais depuis le début de la guerre, je suis constamment vautrée devant l'ordinateur et les informations. Et le stress qui s'accumule dans mes muscles commence à se faire sentir. Elior Graham va venir nous donner quelques astuces pour savoir comment s'en défaire. Elior Graham, bonsoir.
Bonsoir.
Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du dos. Comment allez-vous ? Comment va votre dos ?
Écoutez, tout va bien. Moi, ça va super et mon dos, ça va nickel.
On sait que beaucoup de personnes souffrent du dos à cause de sédentarité principalement. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes ? Comment on peut les aider ?
Écoutez, moi je préconise toujours l'avis d'un médecin en premier lieu, mais le plus important c'est de bouger et de muscler son dos, plus précisément ses grands dorsaux. Moi je dis toujours que c'est mieux de le faire en salle de sport parce qu'on a plus de matériel. Et pour revenir aux grands dorsaux, c'est les muscles les plus denses et les plus imposants de notre dos.
Alors quand on se décide enfin à prendre le chemin de la salle de sport pour s'occuper de notre dos, quel mouvement vous nous conseillez de faire ? Quel type d'exercice, Elior Graham ?
Alors il faudra effectivement faire tous les mouvements qui ramènent le coude vers l'arrière. Là alors on parle de biomécanique, on effectue une rétropulsion et toujours proche des hanches pour solliciter au maximum les fibres musculaires du dos.
Est-ce que vous avez des noms d'exercices comme ça que vous pouvez nous donner, qu'on peut chercher sur Internet ?
Il y aura toujours plein d'exercices que vous retrouvez sur Internet, mais ceux que je conseille le plus, c'est le tirage bûcheron, il y a les tractions, et pour moi, le meilleur exercice, ça reste le tirage vertical à la poulie. Vous devez vous asseoir sur un siège, donc sur un banc à la salle de sport, pour vous stabiliser, et vous pourrez à ce moment-là améliorer le recrutement des fibres musculaires et potentiellement faciliter l'augmentation progressive de la charge de travail.
Vous parlez de poulie, de tirage vertical à poulie, etc. Enfin, c'est des engins qu'on a à la salle de sport, mais qu'est-ce que vous conseillez pour ceux et celles d'entre nous qui n'ont pas accès à une salle de sport ? Surtout, je pense aux personnes qui sont en ce moment à l'armée, dans des bases qui ne sont pas forcément munies d'une salle de sport, ou des personnes qui ont été déplacées de leur maison pendant la guerre, qui n'ont pas aussi forcément accès à une salle de sport. Comment est-ce qu'on peut s'occuper de son dos avec ce qu'on a à la maison ?
Alors, avec ce qu'on a à la maison, ça va être simple. Hein. On a tous un pack d'eau à la maison, des bouteilles, des petites charges libres qu'on peut retrouver à la maison, même dans des camps à l'armée. On peut aussi travailler avec des élastiques et ça marchera très bien de faire avec ce genre d'instrument, ce genre d'objet.
Vous avez un compte Instagram dans lequel vous prodiguez des conseils de fitness et d'alimentation.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment tout cela a commencé? Est-ce que vous avez toujours été quelqu'un d'athlétique ou est-ce que ça vous est venu comme ça au cours de votre vie?
J'ai pas toujours été quelqu'un d'athlétique, de sportif, à part quand on était petit, qu'on prenait des cours de sport. Mais voilà, pour rentrer un peu plus dans les détails, j'ai été très touché par le coronavirus, le fait d'être enfermé chez moi et de rien pouvoir faire. Et à ce moment-là, j'ai commencé à créer ma page Instagram pour motiver un peu tout le monde à faire du sport et à se remettre un peu en santé, pouvoir se changer les idées mentalement et bouger physiquement. Et c'était quelque chose de très important pour moi de pouvoir partager la pratique sportive avec les autres personnes. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à créer des vidéos sur mon compte Instagram. J'ai un peu laissé tomber quelques temps parce que effectivement j'ai repris une autre activité. Mais là, depuis un certain moment, je me remets à faire du contenu, quelques vidéos, et vous pouvez aussi me suivre sur ma page Instagram et Instagram. Je vous donnerai des conseils sportifs, alimentaires, et pour les personnes qui ont des problèmes de sédentarité et qui ont des problèmes au dos, vous pourrez toujours me contacter et je pourrai vous donner quelques conseils.
Alors Elior Graham, un dernier petit conseil qu'on aimerait vous demander dans ces périodes qui sont ces temps très troublés, où on est beaucoup stressé, on va avoir tendance à lancer notre main vers le tiroir des bonbons, de vouloir manger des chocolats pour un peu se calmer les nerfs, et surtout quand on est au travail, assis toute la journée devant l'ordinateur. Alors qu'est-ce que vous conseillez de faire pour faire face à ces envies qui peuvent être parfois néfastes pour la santé?
Je dirais que le plus important, c'est de prendre ses repas le matin, le midi et le soir. Le plus important aussi, c'est de manger beaucoup de protéines parce que ça nous amène énormément de satiété. Vous savez, la satiété, c'est le fait de se sentir vraiment rassasié. Et donc, boire aussi énormément d'eau sera très important aussi pour ne pas aller grignoter dans les placards ou même en rentrant du boulot, ne pas aller manger n'importe quoi. Il est vraiment très important de prendre ses repas. Et j'irai pour ajouter et pour finir, avoir un sommeil réparateur, dormir un minimum de 7 heures par nuit, ce qui vous vraiment donnera beaucoup de force et vous aidera aussi à ne pas grignoter la journée.
Elior Graham, merci beaucoup pour votre intervention et pour vos conseils. Hey.
Des concierges, des gamins, des roulons et des mille feuilles. et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux presque malgré moi comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos comme d'habitude. Et puis je m'habille très vite, je sors de la chambre comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café, je suis en retard comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout écrit dehors comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col comme d'habitude. Moi, je reviendrai comme d'habitude. Toi, tu seras sorti, pas encore rentré comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid comme d'habitude. Mes larmes, je les cacherai comme d'habitude. Mais comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer.
Claude François, et comme d'habitude, nous allons terminer ce programme avec les prévisions météo pour demain. La pluie sera maître mot de cette journée. Un peu partout sur le pays, nous aurons donc de la pluie et les températures seront assez froides. À Jérusalem, 11 degrés. À Tel Aviv, nous aurons 17 degrés. À Haïfa, 16 degrés. À Ashdod, 18 degrés. Be'er Sheva, 15 degrés. À Natania, 18 degrés. À Ashkelon, 17. À Eilat, 19 degrés. Et à Tibériade, 15 degrés.
C'était le journal de Canon Français. Vous étiez avec Rachel Haddad. Merci de votre fidélité, une fois de plus, de nous avoir rejoints. Alors, nous vous retrouverons évidemment demain à la même heure. Nos interviews sont disponibles en replay sur nos réseaux sociaux. Et puis, vous pouvez nous rejoindre sur ce rendez-vous via Facebook Live du dimanche au jeudi à 21h ou quand l'envie vous prendra en replay. C'était tout pour ce soir. Je vous souhaite une joyeuse et calme soirée. Bonne soirée, Jérusalem.